Alors, nous allons commencer pour introduire ce message par une lecture, Romains 15, au verset 13. Romains 15. C'est une parole de bénédiction aussi qu'on dit souvent à la fin du culte. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et le mot qui va revenir ici dans ce message, c'est le mot « espérance ». Alors, lorsqu'on témoigne, que ce soit ici, avant de se faire baptiser ou pour devenir membre, ou lorsqu'on témoigne aux gens que l'on rencontre, eh bien, ce témoignage, c'est toujours, il y a un schéma, c'est ma vie avant de connaître Christ, comment j'ai connu Christ, dans quelles circonstances, et ce qui a changé après. Comment Christ a transformé ma vie. Alors, la première transformation, bien sûr, pour moi, c'est la vision complètement différente que nous avons du péché. Lorsque nous nous convertissons, cette vision du péché est complètement différente. Nous voyons le péché comme Dieu le voit. Ça, c'est la principale différence, bien sûr, le premier changement qui doit arriver après la conversion. On y reviendra un peu plus tard. On voit aussi une transformation par rapport à notre comportement vis-à-vis des autres. Alors que avant on rendait le mal pour le mal, lorsque on nous agressait ou on répondait violemment, eh bien on est capable de supporter, on est capable de pardonner, on est capable d'aimer son prochain même si mon prochain me fait du tort. On est capable de prier pour ceux qui nous persécutent. Parfois c'est difficile, hein? Parfois c'est difficile, mais grâce à l'amour que le Seigneur a mis dans notre cœur et au Saint-Esprit, nous sommes capables de le faire. Mais c'est difficile, c'est vrai. C'est parfois difficile. Pour moi, le grand changement, enfin, oui, le plus grand changement, c'est que avant, j'étais, comme nous venons de chanter dans Vase d'argile, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce chant, j'étais brisé, vidé, sans espoir. J'étais donc désespéré. Je faisais partie du monde des désespérés. Alors qu'aujourd'hui, le Seigneur a mis en moi une espérance vivante. Cette espérance est qu'un jour, j'habiterai la maison de Dieu et que je partagerai l'éternité avec mon Sauveur. Et j'espère que vous avez cette espérance. C'est cette espérance qui est ma force, ma joie, ma paix, mon refuge. On l'a chanté aussi, hein, « Mon refuge est en toi ». C'est le moteur qui m'actionne, qui me fait avancer. C'est mon ancre, c'est ma voile. C'est cette espérance qui fait que, comme notre frère l'a dit dans sa prière, lorsque les choses vont mal, qu'est-ce qu'on fait ? On réduit la voile. Et on met une ancre pour ne pas dériver. Alors que cette voile aussi peut servir, doit servir à nous faire avancer. Alors, on va passer en revue quelques caractéristiques de cette espérance du chrétien. Tout d'abord, cette espérance, elle est consolante. Elle nous console. On peut prendre 2 Thessaloniciens au chapitre 2. 2 Thessaloniciens au chapitre 2, au verset 16. On peut aller même jusqu'au 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle, et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toutes bonnes œuvres, et en toute parole. Donc, une de ces caractéristiques de cette espérance du chrétien, c'est qu'elle est consolante. C'est vrai que c'est facile à dire, hein, mais quand on vit des moments douloureux, ce n'est pas toujours facile, mais voilà, cette espérance doit nous aider à traverser ces moments difficiles. Cette espérance, elle est bonne, puisqu'elle provient de la bonté de Dieu. Elle est donnée par grâce. Nous venons de le lire. Qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Donc elle nous est donnée par grâce, gratuitement, uniquement par l'amour de Dieu. Elle est bienheureuse. Nous pouvons lire dans Tite, au chapitre 2. Tite, au chapitre 2. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Elle est certaine. Éphésiens chapitre 1. Les versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous avez été scellés. Donc, cette espérance, elle est certaine. Bien souvent, dans le langage courant, espérance, il y a un doute, hein, il y a toujours un doute. Hein. On dit, oui, j'espère que... Mais ici, c'est une espérance, mais c'est surtout une assurance. Hein, ça me fait penser à un chant. J'ai l'assurance de mon salut. Elle est solide. Hébreux 6, au verset 19, je vais le lire, c'est une petite phrase. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Donc, cette espérance est solide. Ça me fait penser encore à un autre chant, bien sûr, sans mon encre et sans soit ma voile. Elle est purifiante. Je vais lire juste une petite phrase. Elle est purifiante. Dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 3, Jean dit ceci. « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même, Jésus, est pur. » C'est vrai que nous savons que nous sommes pardonnés, mais nous savons que lorsque nous nous comportons pas de façon correcte, nous demandons pardon. Nous savons que lorsque nous nous présenterons devant Christ, nous savons que nous sommes pardonnés, bien sûr, mais lorsque vous imaginez, vous pensez à cela, qu'un jour vous allez vous présenter devant Christ, eh bien, cela nous pousse à devenir meilleurs. Et ça me fait penser à ce chant aussi, de ressembler Jésus. C'est mon espoir suprême. On a cette envie, ce désir de se présenter devant lui de manière la plus belle possible, la plus bonne possible. Cette espérance, elle est vivante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vivante? 1 Pierre, chapitre 1. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, cette espérance vivante, ça a un rapport à la résurrection. Espérance vivante, ça veut dire une espérance éternelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson de Guy Béard qui a chanté, je ne vais pas le chanter, hein, mais je me souviens des premières paroles de le début de cette chanson qui disait « C'est l'espérance folle qui nous console de tomber du nid et qui demain prépare pour nos guitares d'autres harmonies. » Alors, c'est l'espérance folle, ça m'a fait penser à 1 Corinthiens 1, 18, qui dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui se perdent. Par contre, pour nous qui croyons, pour nous c'est une puissance. Et donc cette espérance folle, qui est folle pour certains, mais pas pour nous, cette espérance nous console et nous empêche de tomber du nid. Et il parle aussi de demain. Demain prépare pour nos guitares d'autres harmonies. Celui qui a cette espérance, il n'a pas peur du futur, il n'a pas peur du lendemain, il n'a pas peur de se projeter dans l'avenir, parce que cet avenir, eh bien, c'est aller vers notre Sauveur, aller passer l'éternité vers notre Sauveur. Ceux qui n'ont pas cette espérance ont peur du futur. Ce n'est pas le cas pour nous qui avons cette espérance soi-disant folle. Cette absence d'espérance, c'est une des choses principales qui nous différencie de ceux qui ne croient pas. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Versets 13 et 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Vous voyez donc ici que Paul fait vraiment la différence entre ceux qui n'ont pas d'espérance, ceux qui ont une espérance dans la résurrection et ceux qui n'ont pas d'espérance. Ne soyez pas affligés comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Bien sûr, nous sommes quand même affligés quand nous sommes dans des circonstances douloureuses, mais cette espérance nous tient debout, nous fortifie, nous console, encore une fois. Je me souviens d'une interview c'était à la télévision italienne. Et on interviewait, il y a déjà longtemps, hein, c'est dans les années 80-90, c'était un acteur italien qui, peut-être vous le connaissez, qui s'appelait Nino Manfredi. Et le journaliste lui demande, vous avez parlé souvent de que vous cherchiez la foi. Est-ce que vous avez trouvé la foi? Est-ce que maintenant vous croyez? Et au lieu de répondre « Non, moi je suis athée, je ne crois pas, tout ça c'est des inventions, tout ça comme bien beaucoup répondent », il a pris un air triste et il a dit, il a répondu « Hélas, malheureusement, je fais encore partie du monde des désespérés. Je suis encore désespéré. » Et au moins, il avait compris que seul Dieu peut nous donner une espérance éternelle. Seul Dieu peut nous combler. Comment avoir cette espérance? Comment passer du monde des désespérés au monde de ceux qui partagent cette merveilleuse espérance? Que faut-il faire? Rien. Rien. Il ne faut rien faire. Et ça, c'est difficile à comprendre pour certains. Parce que nous vivons, bien sûr, dans un monde où, pour obtenir quelque chose, il faut toujours faire quelque chose. Il ne faut rien faire parce que tout a été accompli sur la croix de Golgotha par Jésus-Christ. Par le péché, nous étions définitivement séparés de Dieu et sous une condamnation éternelle. Mais Jésus a pris sur lui notre péché. Jésus est mort pour nous. Mais Dieu l'a ressuscité. C'est là notre espérance. Ce que Dieu demande maintenant, c'est pas de faire des choses, mais c'est d'abord de reconnaître que nous sommes pécheurs. Pas seulement de le reconnaître, parce que c'est facile de... Enfin, c'est facile, pas toujours, mais c'est facile de dire « Ouais, c'est vrai, je suis pécheur. » Mais c'est plus difficile de se repentir. Je prends toujours l'exemple au tribunal, le juge dit « Est-ce que vous reconnaissez que vous avez fait telle chose, vous avez, par exemple, je ne sais pas, vous avez volé cette voiture. Ben, le gars, il dit, oui, je reconnais. Ben, il est bien obligé de reconnaître, il y a des témoins qui l'ont vu, Son avocat lui a dit, écoute, il vaut mieux que tu reconnaisses, demande l'indulgence du tribunal. Il reconnaît sa faute, mais il ne ressent aucune tristesse, aucun remords. Alors que lorsque nous reconnaissons d'être un pécheur, nous devons aussi nous repentir de cela. Et donc la repentance, c'est vraiment quelque chose, c'est une tristesse, mais c'est une tristesse qui vient de Dieu. Ce n'est pas une tristesse qui vient du monde. C'est la tristesse qui vient de Dieu et qui nous pousse à demander pardon, pardon à Dieu. Mais aussi à nous engager à le suivre. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, nous avons une autre vision par rapport au péché. Maintenant, nous nous détournons de notre ancienne vie et pour suivre Jésus et ses commandements, pour lui obéir et vivre une vie qui honore notre Seigneur. Si notre repentance est sincère, Dieu fait alors de nous son enfant. Et de même que Dieu a ressuscité Jésus, il ressuscitera ceux qui ont placé leur confiance dans le sacrifice de Jésus. Il nous promet la vie éternelle dans sa présence. Ça me rappelle ce chant. Je vais en citer quelques-uns. Et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrais voir les splendeurs de son ciel. C'est dans Dieu Tout-Puissant. C'est là notre espérance. C'est là notre espérance. Alors, réjouissons-nous de ce que, uniquement par grâce, par la grâce que Dieu nous a accordée gratuitement, nous ne faisons plus partie du monde des désespérés et des perdus. Mais nous sommes passés dans le monde de ceux qui ont une espérance. Cette espérance qui, dans le chant qu'on a chanté tout à l'heure, bien c'est le trésor que Dieu place dans des vases d'argile. C'est la vie éternelle. Cependant, il est vrai que lorsque les choses vont mal, lorsque nous sommes dans les épreuves, lorsque nous sommes dans la tempête, le brouillard de toutes ces choses de la vie nous font parfois perdre de vue cette espérance. Et alors, on vacille et on risque de perdre pied. Et lorsque nous sommes dans ces moments-là, bien, souvenons-nous de cette merveilleuse espérance que nous avons, de cette maison, cette demeure magnifique de ce que nous prépare notre Seigneur. Ça me rappelle deux chants. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. C'est vrai qu'il y a des moments où on perd de vue l'astre radieux. Et cet astre radieux, bien sûr, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est notre espérance. On perd de vue notre espérance. On se concentre, on se focalise sur le présent. Mais Jésus, à travers la nuit, à travers ce brouillard qui nous a un peu aveuglés, Jésus nous montre les cieux. Il y a aussi un autre chant qui dit « Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. » Voilà donc cette espérance nous aide à supporter les épreuves. Bien sûr c'est difficile. Hein? C'est difficile. Mais j'ai dit nous aide. Bien souvent dans les médicaments ou dans certains produits, il n'est pas marqué guéri. Il est marqué aide. Par exemple, tel médicament aide à faire baisser le cholestérol. Hein? Cette espérance nous aide à supporter les épreuves. Alors cette espérance, devons-nous la garder pour nous? Bien sûr que non. Cette espérance, nous devons la partager. Nous ne pouvons pas la garder pour nous. Nous avons besoin de la partager avec les autres. Soit en parlant, mais aussi en la vivant, en étant un témoignage vivant pour ceux qui n'ont pas encore cette espérance. Cette espérance, les autres la voient, soit parce que nous sommes dans la joie, soit parce que nous sommes dans la paix, malgré la tempête, malgré les épreuves, les souffrances de toutes sortes. C'est un puissant témoignage que celui d'un chrétien qui vit selon cette espérance. Un verset pour conclure. On va les lire ensemble, on devrait l'apprendre par cœur. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 18. C'est vraiment un verset qu'on devrait apprendre par cœur. Moi, c'est quand je me sens un peu bas de morale, eh bien, c'est un verset qui me réconforte. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà. Alors je sais que c'est facile à dire, mais que lorsqu'on se trouve dans des circonstances, dans des situations douloureuses, c'est pas toujours facile à mettre en pratique. Et je comprends. Mais je n'ai pas d'autre solution à vous donner. Il y a bien sûr les médicaments et parfois on doit recourir aux médicaments, parfois on en a besoin. Mais ils ont tous des effets secondaires, négatifs bien sûr. Alors il y a l'alcool, la drogue, mais il y a un remède qui n'a pas d'effet secondaire et qu'on peut... On peut utiliser sans modération, c'est l'espérance en Jésus-Christ. L'espérance que nous avons d'un jour être réunis à lui, dans son royaume, dans son ciel de gloire. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. J'espère que cela vous aura encouragé. Moi, ça m'a encouragé. Je crois qu'on a besoin... aujourd'hui dans le monde triste et désespérant dans lequel nous vivons, nous avons besoin d'encouragement. Alors, voilà. Je vais terminer par la prière. Seigneur, merci parce que un jour tu t'es révélé à nous. Nous qui étions dans le monde de des désespérés, le monde des ténèbres, et tu nous as fait passer de ce monde des désespérés, de ce monde des ténèbres, au monde de la lumière et de l'espoir. Merci, mon Dieu, pour cette espérance vivante que tu as placée dans notre cœur, Seigneur. Cette espérance, nous la devons au sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ, sur la croix de Golgotha. Merci pour ce sacrifice. Merci pour cette mort qui nous donne la vie éternelle. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.